Frères et sœurs, dans les évangiles, c'est assez systématique. Chaque fois que Jésus annonce sa passion, chaque fois, les disciples manifestent leur désarroi ou même leur incompréhension. Vous vous souvenez, la semaine dernière, Pierre était dans le déni et même dans une certaine opposition. Il prend à part Jésus. Lorsque Jésus lui révèle sa passion, il répond « Non, cela ne t'arrivera pas ». Aujourd'hui, à nouveau, Jésus va essayer de partager à ses disciples le fait qu'il va mourir. Et là, la révolte a laissé place à une sorte de peur un peu teintée d'indifférence. Les disciples ne comprennent pas, ils ne posent pas de questions, puis finalement ils préfèrent passer à un autre sujet et ils vont discuter plan de carrière. Ça va savoir qui est le plus grand, qui sera cardinal, pape, évêque, etc. Et c'est terrible parce que Jésus, il est à ce moment de sa vie où il avance vers sa passion, il est physiquement entouré par ses disciples, mais il est spirituellement tout seul. Les disciples deviennent progressivement incapables de compatir. Et on peut trouver, c'est sûr, des multiples causes à cette incapacité. La difficulté à comprendre, c'en est une. Peut-être aussi qu'ils ne veulent pas voir la souffrance. Lorsqu'on annonce à quelqu'un qu'il va mourir, très souvent, la première réaction, c'est de ne pas vouloir regarder l'issue fatale. Peut-être aussi que la souffrance effraie. Qu'est-ce qu'il est difficile de trouver le ton juste, la parole juste, lorsque nous sommes à côté de personnes qui souffrent. Et peut-être aussi qu'ils sont un peu trop centrés sur eux-mêmes, un peu trop encombrés de leurs propres problématiques personnelles, qui fait qu'en fait, il n'y a pas d'espace pour Jésus. Je ne sais pas si on s'est déjà posé cette question de se dire que le Christ a besoin de notre compassion. C'est le mystère de l'agonie à Gethsémani. Quand Jésus va à Gethsémani, qu'il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, il aimerait bien, il a besoin. Il a besoin que nous soyons sensibles à ce qui fait souffrir le cœur du Christ. Et ça, ce n'est pas du tout un anthropomorphisme. C'est la réalité. Le cœur du Christ est un cœur de chair et de sang. Il a eu des émotions. Il a pu ressentir de la solitude. Et je pense qu'il a ressenti de la solitude à ce moment-là. Et ce décalage entre les disciples et leur maître qui s'avance vers sa mort, il va aller grandissant puisque à l'agonie, vous vous souvenez, ils dorment. Et au pied de la croix, il y aura simplement Marie et Jean. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'à la différence de la semaine dernière où Jésus a une sorte de coup de sang, hein, il s'adresse à Pierre, il lui dit « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Ici, Jésus répond avec tellement plus de douceur. Il va même, pour essayer d'élever un petit peu ses disciples, partir de là où ils en sont. Et à ce niveau-là, Jésus est un excellent pédagogue. Alors c'est quoi leur problème? Leur problème, c'est de savoir qui est le plus grand. Okay, bah, du coup, Jésus va commencer par répondre, c'est quoi être le plus grand? Et puis, il va leur dire, il va leur désigner, celui qui est le plus grand, c'est celui qui sait se mettre au service. C'est celui qui se fait le plus petit de tous et le serviteur de tous. Voilà la vraie grandeur. Donc Jésus part un peu de la petitesse de là où ils en sont pour essayer de les faire grandir progressivement. Il ne va pas utiliser de la colère. Et puis à ce moment-là, il joint le geste à la parole, il place un enfant au milieu d'eux, et puis il leur dit « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille ». Et à l'époque, il faut bien se rendre compte qu'on n'était pas du tout dans la culture de l'enfant roi. Hein, mon petit chéri, est-ce que ça va bien? T'as pas trop mal à la tête? Est-ce que t'es bien inscrit à tous tes cours de machin? Est-ce que... Non, c'était pas du tout le délire de l'époque. Le délire de l'époque, c'est un enfant n'était pas du tout mis au centre des préoccupations parentales, pas du tout. On attendait qu'il se devienne adulte, qu'il fasse ses preuves. Puis l'enfant à l'époque de Jésus a le même statut que l'esclave. Vous voyez? Donc pas plus de considération qu'un esclave. Et donc du coup, lorsqu'il prend un enfant qu'il le met au milieu, il prend quelqu'un de fragile, quelqu'un de dépendant. Quelqu'un qui a besoin des soins, quelqu'un qui n'est pas considéré, et il dit, celui qui accueille cette personne fragile, cette personne dépendante, cette personne qui a besoin de considération, c'est moi qui l'accueille. Alors bien sûr, quand Jésus parle de l'accueil, il reprend à son compte, je veux dire, la longue tradition d'hospitalité qu'on voit dans tout l'Ancien Testament. Pensez par exemple à Abraham, au chêne de Mambré, qui va accueillir trois personnes qui sont en réalité des anges, et ces anges vont révéler à Sarah qu'elle sera la mère d'Isaac. On peut penser aussi à des passages magnifiques dans le livre du Lévitique, notamment, ou dans le Deutéronome, sur la place de l'étranger. Et je pense que c'est bon qu'on réentende ces passages sur l'hospitalité qui sont donnés dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu dit à son peuple « Quand un étranger résidera avec vous dans votre pays, c'est-à-dire dans la terre promise, tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même, vous avez été des étrangers en Égypte. » Il y a dans l'Ancien Testament une tradition de l'hospitalité dont Jésus se fait l'héritier. Mais ici, Jésus, il va un peu plus loin. Il ne dit pas simplement « ouvre ton cœur, sois généreux, aime celui qui est autour de toi, crée un espace pour les personnes qui t'entourent ». Non, Jésus dit plus que ça. Puisqu'il dit « lorsque tu accueilles quelqu'un en mon nom, c'est moi que tu accueilles ». Et d'une certaine façon, il va élever l'hospitalité quasiment au rang d'une vertu théologale. Les vertus théologales, c'est les vertus qui ont Dieu pour objet, la foi, l'espérance, la charité. Ben, lorsque nous pratiquons la charité par l'hospitalité, en fait, nous honorons Dieu. Dieu, nous ne le voyons pas, c'est une épreuve. Et par la charité, nous avons la possibilité d'avoir un contact direct. Alors ce matin, ça m'a d'ailleurs joué un petit peu des tours, cet évangile, parce que je célébrais la messe de 10h. Il y avait un boucan, comme je pense jamais, j'en ai à peu près jamais entendu dans cette paroisse. Imaginez, vous voyez, la fraise du dentiste, vous voyez, puissance 10. Et donc c'était quand même un peu violent, parce que donc des cris d'enfants stridents en permanence, j'avais du mal à me concentrer et j'aurais tellement aimé faire une réflexion. Et puis je tombe sur quiconque accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. J'étais pieds et poings liés, je pouvais plus rien dire. Du coup, je me suis dit, ce sera ma blague pour ce soir. C'est moi qui l'accueille. Et lorsque Jésus dit ça, ça nous renvoie aussi au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Vous souvenez, c'est le jugement dernier. Au moment où je dis, tout ce que vous aurez fait à un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Le christianisme, il prend sa source, son origine dans l'hospitalité inconditionnelle de Jésus. Personne n'était à sa table, ni les prostituées, ni les voleurs, ni les pharisiens, ni les collecteurs d'impôts, ni les boiteux, ni les lépreux. Personne n'était exclu de sa table. Et c'est pour nous un enjeu terriblement fort quand parfois l'Église peut être perçue comme un monde un peu trop refermé sur elle-même, un peu trop clos, voire même considéré par certains comme un bastion d'intolérance. Que faisons-nous, mes frères, pour que l'Église puisse témoigner de cette attitude que le Christ a eue tout au long de sa vie, d'un accueil inconditionnel, d'une hospitalité qui n'a pas de limite? Et c'est ça que Jésus nous dit aujourd'hui. Si nous voulons le rejoindre, est-ce que nous sommes capables? Alors je sais que beaucoup d'entre vous sont investis dans des associations, je pense à Magdalena, un certain nombre de jeunes, notamment des pèlerins, vous êtes très investis auprès de cette association. Je ne dis pas que l'Église ne fait rien, mais nous avons tous une marge de progression, de croissance, pour que l'Église donne au monde ce témoignage d'un amour inconditionnel, d'un accueil qui soit inconditionnel. Comme le rappelle le pape François dans de si nombreux textes, lorsqu'il dit « l'Église doit être le lieu où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé et pardonné ». L'Église doit être le lieu où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé et pardonné. Et voyez, le Christ, il n'a pas commencé son ministère à Jérusalem. Il n'a pas commencé son ministère en Judée. Son ministère, il l'a passé essentiellement en Galilée. La Galilée qui était le territoire juif qui était le plus proche des païens. Et c'est là qu'il a commencé son ministère. C'est là qu'il a déployé toute son action. Où le Christ aimerait-il qu'on soit, nous, aujourd'hui? Alors, bien sûr, l'accueil, comment il doit être vécu dans la paroisse, c'est d'abord être un accueil entre nous, il y a déjà tout un travail, mais il y a aussi notre ouverture vis-à-vis de tous ceux qui sont à l'extérieur. Et vous savez, le désir profond que j'ai qu'en début d'année, à l'occasion de Dimanche des Curieux, dans maintenant 3 semaines, nous puissions offrir la possibilité à des gens de venir se mettre à table avec Jésus. Que Jésus puisse accueillir ici ceux qui ne le connaissent pas. Et j'ai besoin de vous, le Seigneur a besoin de vous. Et c'est vrai que c'est pas confortable. C'est pas confortable pour vous de se dire, tiens, qui je peux inviter? Qui le Seigneur m'appelle à inviter? On a tous peur, vous avez peur, moi aussi j'ai peur. Et c'est quelque chose qui est un peu dérangeant. Et en même temps, vous voyez, quand je regarde notre paroisse qui est belle, pendant cet été j'ai sillonné la France et j'ai vu plein de paroisses, et je suis rentré ici en me disant, c'est vrai que j'ai une chance merveilleuse, j'ai une église qui est pleine, j'ai une église avec des paroissiens qui ont des âges différents, qui sont fervents, je rends grâce. Mais je me dis, si notre paroisse qui a cette richesse-là, qui a cette chance-là d'être une paroisse nombreuse, n'a pas la force d'évangéliser, qui le fera ? Qui le fera ? Donc nous avons cette responsabilité à ceux à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé, nous dit le Seigneur. Et donc nous portons cette responsabilité grande. Peut-être que certaines paroisses ont plus de mal à la mission, mais nous on n'a aucune excuse. Une fois dans l'année, de prier, de se mettre à genoux, de demander au Seigneur, de porter d'abord dans la prière les personnes. Je pense qu'ici, on devrait tous avoir trois noms. Peut-être qu'on n'arrivera pas à inviter, c'est pas grave, vous aurez quand même le droit de venir le jour du dimanche, j'ai curieux, c'est ouvert à tout le monde. L'année dernière, j'avais quelqu'un qui m'a dit « Oui, bon, j'ai réussi à inviter personne, du coup, je suis pas venu. » Ben non, non, viens. Mais par contre, il y a quelque chose que chacun, on peut tous faire, c'est identifier trois personnes et prier pour elles, pour que nous puissions vivre un grand moment de fête le 14. Parce que nous aurons, ça coûte en énergie d'évangéliser, de prendre le risque de dire à quelqu'un, de prendre le risque aussi de se prendre un vent, c'est vrai, c'est pas agréable. L'année dernière, j'avais invité 7 personnes, il y en a 2 qui sont venues, je me suis pris 5 vents, je trouvais ça pas tout commode. Mais en même temps, j'ai voulu faire cette expérience comme vous, cette année j'en ai 5. J'attends. Donc portons cet appel à la mission, ce désir de donner le témoignage d'une église ouverte, d'une église hospitalière, d'une église qui prend soin des gens, d'une église qui ne juge pas. Et demandons au Seigneur la grâce qu'à l'occasion de ce 14 octobre que nous devons porter tous et toutes, je compte sur vous, le Seigneur compte sur vous, que nous puissions nous réjouir de voir le Seigneur parler au cœur des gens et transformer des cœurs. Amen.